C'est le studio Kalangou, il est 17h. Tout de suite, le journal en français. Je suis Rafika Taher à la présentation. À la une aujourd'hui, le Niger doit affronter à 17h l'Algérie en demi-finale du championnat d'Afrique des nations de football CHAN Algérie 2023. L'ambiance de ce match au stade Général Séni Kountié de Niamey avec un de nos reporters. Dans la région de Tillabéri, les déplacés du village de Tegueï de la commune de Gorwal sont arrivés à Bankilaré. Déjà des ONG sont sur place pour une assistance humanitaire. La partie magazine de cette édition porte sur les conséquences de la consommation du plomb peanut chez les enfants. Bien portant. Bonsoir à tous et bienvenue. Les matchs pour les demi-finales du championnat d'Afrique des nations de football CHAN Algérie 2023 commencent ce soir. L'équipe du Niger, le MENA A', joue contre le pays organisateur, l'Algérie. À Niamey, un écran géant a été installé au stade Général Séni Kountié où les supporters peuvent suivre le match. Notre reporter Habibou Garba est sur place. Bonsoir Habibou.
Bonsoir Rafika, bonsoir auditeur du studio Kalangou.
Habibou, quelle est l'ambiance sur place?
Rafika, je ne suis pas en Algérie, mais si au stade général, les Nigériens ont répondu vraiment présents. Les amateurs du ballon sont ici. On vient de donner le coup d'envoi du match Niger contre Algérie. Et tout se passe bien ici. L'ambiance est vraiment au rendez-vous.
Oui, Habibou, quel est l'engouement des supporters? Sont-ils confiants?
Oui, les supporters, ils sont confiants, ils ont les drapeaux du Niger et ils sont en train de brandir le drapeau ici calmement, le match du Niger. En tout cas, tout se présente sous des bonnes auspices selon quelques supporters qu'on a vu tout de suite.
Allô, Habibou? Allô?
Oui, allô?
Oui, Habibou, tu disais?
Oui, je disais vraiment, l'ambiance est au rendez-vous ici. C'est pas Algérie, mais c'est l'Espagne générale de Ndoukouché. Je me suis écarté un peu de la foule pour pouvoir vous écouter, Rafika.
Oui, et quelle est l'ambiance? Dites-nous comment ça se passe. Quel est l'engouement? Que les supporters?
Rafika, les supporters sont confiants. Ils disent déjà que le Niger va gagner le match. On vit vraiment des premières touches des jeunes Nigériens.
Est-ce qu'il y a des pronostics? Il y a des supporters qui ont donné des pronostics à Habibou?
Oui, bon, en tout cas, tout le monde est confiant. Il y en a qui parlent même de 3-0. Oh. Et pourquoi pas? Parce qu'ils disent que le Niger a gagné 0-0, 1-0, 2-0. Aujourd'hui, ils sont là pour repartir avec 3-0.
D'accord, Habibou. Merci beaucoup. Continuons cette édition avec les déplacés de la commune de Gorwal, notamment ceux du village de Tegueï qui sont arrivés à Bankilaré pour fuir les exactions des groupes armés qui écument la région de Tillabéri. Ce mardi, une mission humanitaire est arrivée à Bankilaré pour évaluer la situation et répondre à l'urgence. Dr Mako Thierry, chef du projet DHARRM, est au micro de Youssef Ilewat.
On a répondu à un appel du préfet qui nous a fait une alerte qu'il y a plus de 1000 ménages et plus de 7000 déplacés au niveau de la commune de Bankilaré. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté effectivement des sites déplacés où il y a beaucoup de personnes qui sont sans abri et qui sont allées libres jusque-là. Et on est là pour répondre à leurs besoins en soins de santé primaire. C'est des soins curatifs, des soins préventifs, et c'est les soins de santé pour la production et c'est la mobilisation communautaire sur l'hygiène, sur le bien-être familial et sur la prévention des maladies. Nous avons prévu d'installer un poste où on va faire les soins au sein même du site déplacé, avec les équipements d'une clinique mobile. D'autres ONG vont sans doute suivre pour répondre aux besoins des abris et pour la sécurité alimentaire et pour les biens non alimentaires aussi.
Toujours à Tillabéri, depuis quelques années, plusieurs localités sont minées par un climat d'insécurité et de violence marqué par la prolifération des groupes armés, la recrudescence des affrontements intercommunautaires et la montée de l'extrémisme violent. Cette nouvelle forme d'insécurité répond le plus souvent à des logiques proprement locales, telles que les règlements, estime Ali Bako. Il est chercheur au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL. On l'écoute au micro de Mokhtar Hamadou.
Quand ces groupes se sont déployés dans cette zone-là, il y a eu quand même un phénomène d'endogénisation, c'est-à-dire qu'ils ont recruté des combattants dans les jeunes de la région, des Nigériens qui sont des acteurs de l'insécurité. Donc de plus en plus, les acteurs sont devenus Nigériens et donc c'est naturel que ces acteurs ayant la force essaient de dicter un certain nombre de comportements ou de conduites à tenir par rapport aux populations. Et si vous l'avez remarqué, des règlements de comptes, des pillages, de vols, enlèvements, kidnapping, tout ça là, c'est une panoplie de formes d'insécurité que nous rencontrons dans ces zones-là. Maintenant, ce n'est même plus la question de l'influence des groupes islamiques, mais c'est le banditisme résiduel qui sévit dans ces zones-là. Donc, c'est des groupes de 6-10 personnes qui opèrent, qui règlent des comptes, qui volent le bétail, qui le revendent. C'est devenu un business, en fait. C'est devenu aussi une affaire sociale, parce que les questions de chefferie, les questions des contentieux se règlent par les armes à travers les groupes armés.
Des dizaines de femmes présidentes de plusieurs groupements féminins de Ngingimi sont en atelier pour le renforcement de leurs capacités en technique de prévention et gestion des conflits. Cet atelier qui a débuté ce mardi prendra fin jeudi et permettra à ces femmes leaders de former d'autres dans une région en proie à l'insécurité depuis 2015. Aboukar Issa, le formateur, est au micro de Abdoulaye Meina.
90 femmes de différents groupements sont ici à Ngingimi. Et on est là en train de former ces femmes-là en technique de prévention et gestion des conflits et aussi sur la question de la paix et la cohésion sociale au sein des femmes au niveau de Ngingimi. Nos attentes à l'endroit de ces femmes, c'est des femmes qui sont présidentes de groupements. C'est une obligation sur eux de restituer ce qu'on est là en train de faire aux autres femmes qui n'ont pas eu la chance d'assister à cette formation. On veut la paix au niveau de la région de Difa. Les femmes sont les actrices principales pour cultiver la paix.
Direction Dosso, où une nouvelle saisie de drogue opérée par la brigade fluviale de la gendarmerie de Gaya dans la nuit du dimanche au lundi près de Taran, un village de la commune de Gaya sur le fleuve Niger. En tout, 320 000 comprimés de diazépam, 260 briques, 38 boules de chanvre indien et deux motos saisies. Adjudant-chef Issa Hassoumi, commandant de la brigade fluviale de la gendarmerie de Gaya, au micro de Fadel Alou.
La pirogue, soit souvent en moteur, soit sans moteur. Et maintenant, il y a des motocyclistes qui attendent avant l'arrivée de la pirogue. Aussitôt la pirogue accostée, directement, elle commence à charger. N'eût été vraiment, je vous dis, les professionnels de nos éléments, parce qu'ils étaient embusqués. On va observer tout ce qui se passe. Au moment où les motocyclistes ont commencé à charger, ils ont chargé. Malheureusement, comme c'était une des buissons qui existait à côté, ils ont abandonné le produit pour rendre la piste dans les buissons. On n'a pas pu mettre la main vraiment sur aucun des auteurs. Et le bilan était de 260 briques de chanvre indien, 38 boules de chanvre indien, 320 000 comprimés de diazépam. Plus les deux motos qui ont servi de transformer les pirogues ont aussitôt rebroussé chez moi en provenance du Bénin. Et je lance encore un appel à la population d'avoir une collaboration étroite avec le FDS.
En bref, le Niger et l'Union européenne co-organisent le premier forum des affaires UE-Niger 2023. Il se tiendra les 7 et 8 février à Niamey. Cet événement verra la participation de plus de 400 entreprises nigériennes, européennes et de la sous-région. L'objectif de ce forum, qui portera entre autres sur l'agriculture, l'élevage, les énergies renouvelables et l'artisanat, vise à mobiliser les investissements de qualité, à accroître le potentiel d'attractivité du Niger pour les investisseurs privés et à renforcer les relations entre l'Union européenne et le Niger. Les 25 et 26 janvier, l'intersyndicale des travailleurs du Niger a observé une grève de 48 heures pour exiger l'application des engagements issus du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Ce matin, dans un point de presse, l'ITN a tiré le bilan de ce mot d'ordre sur l'ensemble du pays. Munkaila Halidou, secrétaire général de la CNT, au micro de Ali Tajissir Ahmed.
Les questions pour nous ce matin, de faire le point des 48 heures de grève que l'ITN a observé les 25 et 26 janvier passés. Toutes les dispositions, je disais tout à l'heure, ont été prises par le gouvernement pour amener en échec le mouvement de l'ITN. Mais malheureusement pour eux, c'était sans tenir compte de la détermination des militantes et des militants qui animent les différentes centrales syndicales membres de l'ITN. La grève a été observée. La grève a très bien réussi. À Niamey comme à l'intérieur du pays, et y compris dans les services stratégiques, ils ne s'attendaient pas. Le Niger, à travers la grève de l'ITN, le gouvernement a senti effectivement qu'il y a une force aujourd'hui avec laquelle il faut tenir compte, il faut compter dorénavant. Si depuis 13 ans, on pensait berner le peuple nigérien, aujourd'hui, les travailleuses et les travailleurs se sont réveillés et sont prêts à continuer le mouvement jusqu'à ce que les engagements pris par le même gouvernement puissent être honorés.
Les animistes du département de Birnin Konni viennent de commencer les préparatifs de leur fête annuelle dénommée Arwa. C'est un moment où ces animistes prédisent l'année à venir pour le pays. Ibrahim Dagalé, chef animiste du village de Masalata, explique ses préparatifs au micro d'Assouman Moussa Arzika.
C'est aujourd'hui que nous avons arrêté la date du rituel. Nous avons commencé les préparatifs et nous allons également procéder au questionnement des esprits pour savoir ce qui va être avant le jour J de la grande fête. Nous portons espoir que ce qui va apparaître annoncera de bonnes nouvelles et que ce soit le bonheur. Et tout ce qui pourrait être mauvais ou devenir une catastrophe que nous allons déceler à travers ce rite, que Dieu nous épargne de cela et nous protège du mal sur l'ensemble du pays. La grande fête proprement dite se déroulera le dimanche sur prochain. Je souhaite que ces activités débutent et se terminent dans de très bonnes conditions et que le pays en profite. Les Touaregs, les Peuls, les Haoussa, bref, toutes les ethnies du pays. Notre souhait, c'est de vivre en paix et qu'il y ait une excellente pluviométrie.
La sécurité alimentaire, c'est le thème de la deuxième édition de la Semaine des langues africaines célébrée du 24 au 30 janvier 2023. Adoptée en 2018 à Alger par l'Union africaine, cette initiative vise à promouvoir les langues africaines en vue de leur autonomisation. Au Niger, c'est le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale qui a organisé les activités de cette semaine. Nene Gueye, la chargée du programme Langues africaines au CELTO, est interrogé par Assoumane Achina.
Une langue africaine, c'est une langue parlée par les Africains en dehors de ces langues qui nous ont été imposées par les colonisateurs. Nous avons plus de 2000 langues africaines. Souvent, on traite nos langues de dialectes, alors que ce sont des langues à part entière. Nous voulons faire la promotion de nos propres langues. Nous voulons travailler à l'autonomisation de nos propres langues. Normalement, on devait célébrer cette semaine en organisant un restaurant panafricain. Seulement, le temps un parti était assez étroit pour pouvoir programmer un tel projet. Donc, la raison pour laquelle nous nous sommes appesantis sur la tradition orale qui est la mission première du CELTO. Donc, nous avons organisé des séances de contes au niveau des écoles et au niveau de l'université. Et c'est une façon de vulgariser la semaine des langues africaines.
Place à la partie magazine de cette édition. Pour accompagner l'État du Niger de la prise en charge des enfants malnutris, l'UNICEF investit des sommes importantes de la fabrication de l'aliment thérapeutique qu'est le Plompinot. Seulement souvent, ce complément alimentaire est aussi consommé par certains enfants bien portants. Ceci n'est pas sans conséquence chez ces enfants, selon Mme Issoufou Aïchatou, responsable service nutrition à l'hôpital du district sanitaire de Gaya. Elle est au micro de Balkis Assidi.
Le Plompinot, c'est un aliment thérapeutique prêt à l'emploi, donc qui est fait à base d'arachide. Il est utilisé pour corriger et traiter la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de 6 à 59 mois. Bon, il y a deux types de Plompinot pour corriger la malnutrition. Il y a le Plompinot qui est fait pour traiter la malnutrition aiguë sévère et il y a l'autre, le supplémentaire Plompi qui est fait pour corriger la malnutrition aiguë modérée. Le Plompinot est réservé aux enfants qui sont malnutris, soit sévères ou malnutris modérés, uniquement pour ces enfants-là. Il y a des partenaires comme l'UNICEF qui donne comme le PAM.
Est-ce que les enfants bien portants peuvent consommer le Plompinot?
Donc nous avons nous aussi remarqué que les enfants qui sont bien portants consomment le Plompinot, mais c'est fortement déconseillé pour ces enfants qui sont bien nourris. Un enfant bien portant, il n'a pas besoin de consommer le Plompinot parce que c'est comme un médicament.
Et ces enfants-là qui le consomment, est-ce que ça peut avoir un impact sur leur santé?
Effectivement, ça peut avoir des effets secondaires. À long terme, du moins, ça peut causer certaines maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale et la goutte. Pour un enfant qui est bien nourri, c'est comme un surdosage. On est en train de surdoser les reins, à les faire travailler beaucoup plus vite Donc plus tard, on peut développer une insuffisance rénale. Oui, ça peut avoir un effet sur les enfants malnutris. Ils n'auront pas leur dose nécessaire pour traiter leur malnutrition.
Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivie.